je me présente, Jean-François King. Je suis le représentant de Lutte ouvrière pour la ville de Maisons-Alfort. Et je vais passer la parole tout de suite à notre camarade Nathalie Arthaud, qui est candidate à l'élection présidentielle.
Pendant 10, 20, 30 ans au SMIC. Mais combien y a-t-il de Lejaby qui ferment chaque semaine? Combien de travailleurs se retrouvent comme les ouvrières de Lejaby, mis sur le carreau après avoir fait la fortune de quelques grands patrons? Le pays vit, depuis 3 ans maintenant, une hémorragie de fermetures d'entreprises et de licenciements. Ce sont des dizaines de milliers d'ouvriers, d'employés, de magasiniers, de chauffeurs routiers, d'intérimaires qui perdent ou ont perdu le salaire qui les faisait vivre. Depuis le début de la crise, il y a 1 million de chômeurs de plus, 1 000 chômeurs supplémentaires chaque jour. Et face à cela, tout ce que le gouvernement pourra annoncer à l'issue d'un sommet qu'il avait lui-même pompeusement intitulé « Sommet social », ce sont des mesures dérisoires sur la formation et sur le chômage partiel. Mais quand il y a une hémorragie, il faut mettre un garrot. La seule mesure à la hauteur de la situation, ce serait d'interdire les licenciements. Mais il n'en est évidemment pas question pour ce gouvernement. Alors quand il parle de lutte contre le chômage, eh bien, il brasse du vent. Prenez cette histoire de formation. Le gouvernement veut nous faire croire que les chômeurs ont un problème de formation. Mais les ouvrières de Lejaby, qui ont appuyé sur la pédale de leur machine à coudre avec le chronomètre dans le dos toute leur vie de travail, elles étaient très bien formées. Et les travailleurs de Petroplus à Petit-Couronne, près de Rouen, et les dizaines, les centaines, les milliers d'intérimaires qui sont jetés du jour au lendemain, ce n'est pas par manque de formation. Quand Sanofi supprime des emplois, arrête ici ou là des fabrications, ce n'est pas une question de formation, c'est toujours pour augmenter la productivité, toujours pour augmenter ses profits. Alors le gouvernement nous balade avec la formation. Les seules mesures concrètes et bien palpables, celles-là, que le gouvernement a prises donc, ce sont celles en faveur du patronat, celles concernant le chômage partiel. C'est d'ailleurs sous l'œil BA du MEDEF et de Parizeau que le gouvernement a annoncé la simplification du système de prise en charge du chômage partiel. N'est-ce pas en effet un véritable rêve patronal? Lorsque l'activité est en baisse, l'entreprise n'a qu'à fermer pendant quelques jours ou quelques semaines et c'est l'État qui prend pendant ce temps-là en charge les salaires. L'État, c'est-à-dire la collectivité, c'est-à-dire essentiellement vous et moi. Alors nous sommes, bien sûr, pour garantir les emplois et les salaires, et ce, quels que soient les aléas des commandes et de la production. Mais nous sommes pour que cela se passe sur les deniers du patronat. Il faut que ce soit le patronat qui paye, parce que le chômage, c'est un produit de la rapacité patronale, un produit de l'exploitation. Aucun gouvernement, ni celui que nous subissons depuis 5 ans, ni aucun autre, ne combattra le chômage, car il faut pour cela combattre le responsable, le patronat licencieur. Alors, le chômage, eh bien, il doit devenir l'objet de notre combat commun. Le chômage, c'est notre problème à tous, Et c'est collectivement, au travers de nos luttes, que nous pourrons le combattre. Pour l'instant, ce sont les travailleurs qui payent cette crise, avec des reculs sur les retraites, sur la santé. Beaucoup de travailleurs l'ont payé en perdant ce qu'ils avaient de plus précieux, leur emploi et leur salaire. Et parmi ceux qui ont été licenciés, combien ont épuisé leur droit au chômage et sont tombés dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre? Et même pour ceux qui ont un salaire et un emploi à temps complet, la vie devient de plus en plus difficile, parce que tout augmente. Le loyer, le gaz, l'électricité, les mutuelles, le carburant, tout augmente. Le gouvernement s'est vanté en ce début d'année parce que le gaz n'a augmenté que de 4,5%. Mais qui parmi nous a vu son salaire, sa pension ou ses allocations augmenter ne serait-ce que de 4,5%? Les salaires ne suivent même pas l'augmentation des produits alimentaires. Alors quoi d'étonnant à ce que le Secours populaire ou les Restaurants du cœur se remplissent, y compris de travailleurs? Mais attention, pendant que le chômage et la misère explosaient, sur ces 3 années de crise, les dividendes des actionnaires, eux, ont été préservés. Ils ont été garantis. Et même mieux pour les actionnaires du CAC 40, puisque les dividendes ont augmenté de 31% pour eux. Pendant que les salaires stagnaient, pendant que le pouvoir d'achat dégringolait pour tous les travailleurs, la rémunération des grands patrons, elle, a augmenté de 34%. Alors, on nous dit que c'est la crise. Oui, personne ne peut le nier. Mais ce n'est pas la crise qui fait que le grand patronat s'en sort indemne et que ce sont les travailleurs qui payent. Ça, c'est le résultat d'une politique patronale. C'est le résultat de la lutte de classe entre le patronat et les travailleurs. Et une lutte de classe de plus en plus violente, au cours de laquelle le grand patronat peut compter sur l'État et sur le soutien du gouvernement. Depuis plusieurs semaines, sous couvert de lutte contre le chômage, le gouvernement Sarkozy-Fillon prépare un nouveau plan d'attaque en règle contre les travailleurs. Et la mesure phare serait la TVA sociale. C'est du Sarkozy-Fillon tout craché. Parce que pour accoler le mot « social » à TVA, eh bien il faut être des sacrés menteurs. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui soit. Il fait payer au même tarif le smicard, le chômeur et le milliardaire. Et c'est avec cet impôt injuste que l'on remplit déjà presque la moitié des caisses de l'État. La TVA rapporte quasiment 3 fois plus que l'impôt sur les bénéfices des sociétés. En octobre dernier, lors d'un de ses multiples shows télévisés, Sarkozy avait déclaré avec des trémolos dans la voix qu'il était contre une hausse généralisée de la TVA. À l'époque, il avait décidé de jouer avec les mots, donc il n'y avait pas eu de hausse généralisée de la TVA, mais une hausse partielle de la TVA. Hausse de la TVA de 5,5 à 7%, que l'on paye d'ailleurs tous depuis le 1er janvier sur la restauration, sur les travaux, sur le transport, sur les médicaments. Et puis, emporté dans son élan démagogique, souvenez-vous, Sarkozy s'était même payé le culot de dire qu'une augmentation généralisée de la TVA serait trop injuste. Eh bien, il va falloir lui rafraîchir la mémoire. Le gouvernement Sarkozy-Fillon envisage donc de transférer sur la TVA une partie des cotisations patronales. Le gouvernement, qui se fait en la matière la voix du patronat, la voix de son maître, nous explique depuis plusieurs semaines tous les bienfaits de cette nouvelle TVA qui est censée donner plus de compétitivité, moins d'importations et plus d'emplois. Au point que certains ont surnommé cette TVA la TVA anti-délocalisation. Et on voit tous les ministres se relayer pour nous démontrer par A plus B que ça marche. Eh bien, plus ils nous donnent de chiffres, plus ils baratinent. Ils ont tous rabâché que sur 100 euros versés aux salariés, le patron paye 50 euros de charges en France, 39 euros en Allemagne. Mais c'est vrai pour combien de salariés ? Les patrons ont droit à des exonérations sur tous les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Et combien de contrats d'apprentissage sont signés pour justement ne pas avoir à payer de charges du tout ? Quant à dire que cela rendra plus compétitifs les produits français face aux importations chinoises et que cela pourrait conduire à des relocalisations, c'est complètement ridicule. Le gouvernement nous présente cette mesure comme la mesure qui va tout révolutionner, mais il se moque du monde. Cela fait plus de 30 ans que les exonérations de charges se multiplient, au point qu'elles atteignent aujourd'hui plus de 30 milliards d'euros par an. Et alors, il n'y a jamais eu autant de chômeurs. Sur ce sujet du coût du travail, il y a unanimité, une sorte d'union nationale entre le patronat et tous les partis, de l'extrême droite à la gauche, pour dire qu'en France, le coût du travail est trop élevé. Comme le patronat, les dirigeants politiques présentent les travailleurs comme un coût. Mais les travailleurs, ils ne coûtent pas à l'entreprise, ils lui rapportent. Ce sont eux qui font rentrer l'argent dans les caisses. Ce sont eux qui font tourner les entreprises. Ce sont eux qui créent les richesses. Alors parler de coûts en ce qui concerne les travailleurs est une escroquerie. Et que de l'extrême droite à la gauche, tous les dirigeants marchent dans cette escroquerie, suffit à montrer qu'ils sont dans le camp de la bourgeoisie. Alors, contre tout ce personnel politique dévoué à la bourgeoisie, il faut dire et redire que ceux qui coûtent cher aux entreprises, ce ne sont pas les travailleurs. Ceux qui coûtent cher, ce sont les parasites, les actionnaires, le grand patronat qui se servent des millions, voire des milliards de dividendes. Et s'il y a un coût à baisser, eh bien, c'est celui-là. En septembre 2008, ça remonte déjà à loin, mais vous vous en souvenez sans doute, dans son premier discours de Toulon, Sarkozy avait dénoncé la responsabilité écrasante des banquiers et des spéculateurs dans le déclenchement de la crise. Il avait même déclaré qu'il allait refonder le capitalisme, le moraliser, remettre les marchés financiers à leur place. Et au même moment, Obama faisait du grand discours contre l'irresponsabilité de ces mêmes banquiers. Mais quel est l'État qui a traduit en justice et fait condamner les banquiers coupables ? Quels sont les PDG des grands groupes poursuivis pour avoir fourni de l'argent à la spéculation ? Aucun. Au lieu de cela, les mêmes banquiers spéculateurs ont été inondés de milliards d'argent public. Tous les États leur ont fait des chèques en blanc. Et ironie de l'histoire, avec l'aggravation des dettes publiques, les dirigeants ont même ouvert un nouveau champ à la spéculation, la dette des États. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les banquiers s'en donnent à cœur joie. C'est passé inaperçu, mais le Père Noël a été très généreux pour les banquiers européens, puisque la Banque Centrale Européenne leur a ouvert à Noël du crédit illimité au taux de 1% sur 3 ans. Et ils se sont servis. Ils se sont servis pour 500 milliards. Avec cet argent qu'ils ont obtenu pour rien, eh bien les grandes banques vont aujourd'hui reprêter aux États. Mais ça ne sera pas à 1%. Non, bien sûr, ça sera à 3, 4, 5, voire bien plus. Alors voilà comment les banquiers et les spéculateurs gagnent le beurre et l'argent du beurre. Et ça, avec la complicité bienveillante du gouvernement Sarkozy-Fillon. Alors aujourd'hui, Sarkozy tente de se racheter une virginité en parlant de la taxation des produits financiers, de la fameuse taxe Tobin. Eh bien, qu'il évoque cette mesure à 100 jours de l'élection présidentielle, alors que pendant ses 5 ans de présidence, il en a été l'adversaire, en dit long sur sa sincérité. Mais quand bien même Sarkozy aurait vraiment l'intention et les moyens de créer cette taxe, cela ne changerait rien à la spéculation. La taxe Tobin est un prélèvement ridiculement bas. Le gouvernement hésite d'ailleurs en ce moment sur le nombre de zéros à mettre derrière la virgule. Pour ne pas être trop douloureux aux riches, faut-il une taxe de 0,5%, de 0,05%, voire, comme le proposait Kouchner en 2009, de 0,005%? Leur lâcheté devant les puissants est écœurante. Tous ces dirigeants ne font pas autant de manières quand il s'agit d'augmenter la TVA, le gaz, le train, la CSG ou les sodas. En achetant notre baguette de pain, on paye 5,5% de TVA, 7% sur notre sandwich. Et sur la majorité de nos achats quotidiens, on paye 19,6% quand il ne faut pas rajouter encore là-dessus d'autres taxes. Et on ne demanderait à ces messieurs les spéculateurs de ne payer que 0, quelque chose sur des transactions qui leur rapportent des millions et qui en plus nuisent à toute la société. Alors, taxes. Alors, taxes ou pas taxes, il n'y a pas de quoi faire oublier la servilité du gouvernement Sarkozy, de tous ses acolytes, comme du Parti Socialiste, vis-à-vis des banquiers et des spéculateurs. Et il y a encore moins de quoi lutter contre la spéculation. Pour combattre la spéculation, et pour un système bancaire qui fonctionne pour l'intérêt de la population, il faut exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat, fusionner tous les établissements de crédit en un seul et le faire fonctionner sous le contrôle des travailleurs et à leur service. Le gouvernement fait depuis très longtemps un chantage permanent, en prétendant qu'il est du devoir de chaque citoyen de contribuer au remboursement de la dette de l'État. Que si nous ne faisons pas l'effort aujourd'hui, il reviendra à nos enfants, nos petits-enfants, de le faire. Avec la dégradation de la note de la France, ce chantage va se renforcer. Pendant ces 3 années et demie de crise, le gouvernement a contracté 500 milliards de dettes supplémentaires. Mais où est passé cet argent? Ces 500 milliards, ils ont bien atterri quelque part, ils ont bien servi à quelque chose. Qui est-ce qui en a profité? Eh bien, aucun travailleur n'a vu la couleur de cet argent. Et si la dette a explosé pendant ces 3 années de crise, c'est parce que l'État a fait de l'assistanat à grande échelle pour les banquiers et pour les industriels. Les grandes entreprises ont été aidées à coups de milliards. Les dividendes des actionnaires ont été garantis par des subventions diverses et variées de l'État. Et les plus riches ont été protégés par le fameux bouclier fiscal. Alors voilà où sont passés les milliards que le gouvernement veut faire payer aujourd'hui à toute la population. Alors, quand bien même on nous ressort la dette de l'État à toutes les sauces, les travailleurs n'en sont pas redevables. Cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie, et bien c'est à elle de la payer. Depuis plusieurs semaines, on parle beaucoup du « made in France ». Il faudrait produire et consommer français et revenir au protectionnisme. Tout cela au nom de l'emploi, bien sûr. Mais les mêmes ne trouvent rien à redire aux suppressions d'emplois. Ils n'ont rien contre les licenciements. Ils ne s'opposent jamais contre les fermetures d'entreprises. Chacun pousse son petit cocorico, de Marine Le Pen à Montebourg, en passant par Bayrou et Sarkozy. Et il ne faut pas non plus oublier Hollande et son patriotisme industriel. Mais ces discours protectionnistes sont ridicules. Tout ce qui est produit, chaque objet fabriqué, l'est avec des matériaux, des technologies et des pièces qui viennent des quatre coins du monde. Il n'y a plus de produits industriels français. Allez voir par curiosité, dans votre boulangerie préférée, comment la baguette de pain est fabriquée, d'où vient le four. Où est fabriqué l'inox du pétrin? Et puis, la concurrence internationale dont il faudrait se protéger est organisée par nos propres capitalistes, qui sont les premiers profiteurs de l'exploitation à l'échelle mondiale. Et on retrouve les mêmes multinationales, d'un bout à l'autre de la planète, le même patronat. S'il s'agit de dénoncer les fermetures d'entreprises, pourquoi ne pas dénoncer les responsables directs, les licencieurs, les capitalistes eux-mêmes qui suppriment des emplois pour accroître leurs profits? Pourquoi montrer du doigt les travailleurs à l'autre bout de la planète qui sont nos frères? Ce n'est pas des travailleurs chinois, indiens ou autres dont il faut se protéger. C'est des capitalistes, c'est de leur rapacité, c'est de leur diktat. Le protectionnisme est la version moderne de la propagande nationaliste, qui était il y a peu le terrain de prédilection d'extrême droite. Et bien que ces idées soient aussi véhiculées à gauche, ne change rien au fait que c'est un poison pour les exploiter. Et dans cette période de crise, il n'est d'ailleurs pas impossible que les États capitalistes en viennent eux-mêmes à remettre en cause les accords commerciaux ou financiers internationaux. Nous allons peut-être vivre une phase de remontée du protectionnisme. Mais souvenons-nous, la dernière fois que les grandes puissances ont opéré ce genre de repli protectionniste, c'était à la suite de la crise des années 1930, et cela a mené à la Seconde Guerre mondiale. Alors personne ne peut dire où nous mènera la crise actuelle du capitalisme. Mais ce qui est certain, c'est que pour la classe ouvrière, il n'y aura d'issue qu'à travers des luttes pour défendre ses intérêts propres et qu'à travers la conscience d'être à l'échelle du monde une seule et même classe exploitée. Le sort des travailleurs dépend de la lutte de classe, du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. Y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand et de Jospin, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne sommes pas embarrassés par les promesses du candidat socialiste et que les travailleurs ont peu de risques de se sentir trahis par Hollande, le nouveau champion du Parti socialiste, puisqu'il ne s'est engagé à rien vis-à-vis d'eux. Il ne s'est pas engagé à faire quoi que ce soit contre la dégringolade du niveau de vie des couches populaires. Il n'a rien opposé aux fermetures d'usines, aux licenciements. Sur les retraites, il avait bien promis de ramener l'âge légal à 60 ans. Mais on vient de comprendre que cela ne concernerait que ceux qui ont travaillé et cotisé 42 annuités, ce qui ne concernera que ceux ayant commencé à travailler très tôt et encore s'ils n'ont pas connu de période de chômage. Autant dire que c'est une espèce qui va se faire de plus en plus rare. Sur les 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale au bout de 5 ans, eh bien, il est là aussi de plus en plus clair qu'ils seront pris sur d'autres postes de la fonction publique, ce qui s'appelle déshabiller Pierre pour habiller Paul. Alors la seule chose qui semble certaine du côté de Hollande, c'est qu'il fera une politique de rigueur. Hollande nous promet une politique de rigueur plus juste. Mais quel que soit l'enrobage, quand les dirigeants politiques parlent de rigueur, ce sont toujours, toujours les classes populaires qui finissent par payer. Alors nous sommes prévenus, si Hollande est élu, les sacrifices continueront. Les coups, au lieu de venir de la droite, viendront de la gauche. Alors, si les travailleurs ont toutes les raisons d'exécrer Nicolas Sarkozy, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance en François Hollande. La seule perspective politique valable pour les travailleurs, c'est d'inverser le rapport de force avec le patronat, c'est de ne pas se laisser faire. Il n'y a pas de raccourci électoral parce qu'il n'y a pas, il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat par leur grève, par leurs manifestations. Nous avons la conviction que les attaques du grand patronat contre les travailleurs et la provocation des riches et de leurs porte-parole en tout genre finiront par provoquer une explosion sociale. Quand, où et comment ces luttes se déclareront, nous ne le savons pas. Et il serait vain de broder à ce propos. Mais ce que nous savons, c'est que la colère ou même la détermination ne suffiront pas pour inverser le rapport de force. Il faut aussi que les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent où ils veulent aller, pour quels objectifs ils peuvent se battre, sans quoi il y aura toujours des charlatans pour nous emmener vers des impasses. Les responsables politiques ont mille et une façons de détourner la colère des travailleurs. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On assiste à une vaste campagne qui conduit à opposer les peuples les uns aux autres. Quand on ne montre pas du doigt les Grecs, ce sont les Allemands et leur égoïsme supposé. Et quand on manque d'idées, il y a toujours les travailleurs chinois. Sans parler des étrangers et des immigrés sur qui l'extrême droite et la droite tirent à tous les coups. Alors s'il y a des millions de personnes dans la rue, eh bien les mêmes inventeront n'importe quoi pour emmener les luttes vers des voies de garage. Ils feront tout pour sauver la mise à la bourgeoisie. Alors, contre le concert de mensonges destiné à tromper les travailleurs, nous voulons, nous, défendre une politique de classe. Il faut qu'il soit clair pour tous que les dégâts de la crise seront inévitablement payés. Et si les travailleurs ne veulent pas que la bourgeoisie et ses dirigeants politiques la leur fassent payer, eh bien, il faut contraindre les possédants à payer. C'est eux ou c'est nous. Et tous les responsables politiques qui prétendent venir en aide aux exploités, mais sans s'en prendre aux exploiteurs, à leur profit, à leur fortune, sont des menteurs. Oui, il faudra faire payer la bourgeoisie. Nous avons à protéger nos seuls moyens d'existence, nos retraites, nos emplois, nos salaires. Il faut les défendre, bec et ongles, en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous les bras disponibles sans diminution de salaire. Si l'activité baisse, s'il y a moins de commandes, il n'y a aucune raison que ce soit les travailleurs, les intérimaires, les CDD qui en fassent les frais en étant mis à la porte. Il faut forcer le patronat à répartir le travail entre tous, de façon qu'il assure l'emploi et le salaire de chacun. Bien sûr, cela coûtera de l'argent. Mais les exploiteurs ont l'argent pour cela. Et c'est précisément parce que cet argent est aujourd'hui détourné vers des opérations financières que toute la société crève. Alors, cet argent, eh bien, il serait mille fois mieux utilisé à des embauches et au paiement des salaires. Nous devons aussi avoir l'objectif d'obtenir des augmentations des salaires et des pensions de retraite et d'imposer qu'ils soient indexés sur les prix et sur les prix que nous mesurerons nous-mêmes par en bas, au jour le jour, et pas sur l'inflation officiellement mesurée qui sous-estime l'augmentation des prix pour les classes populaires. Et nous continuerons de défendre un troisième objectif plus général, mais qui est la condition même de tous les autres, qui est d'imposer le contrôle des travailleurs et de la population sur les comptes des entreprises et des banques. Parce que les capitalistes vont nous expliquer qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont forcés de licencier, qu'ils ne peuvent pas embaucher, que tout ce que nous demandons n'est pas possible, parce qu'il y a la concurrence internationale, parce que ça les ruinerait. Alors il faut que les travailleurs puissent tout connaître de l'argent qu'il y a dans les entreprises. À quoi il sert? Combien va aux travailleurs? Combien va aux actionnaires? Combien est versé aux banques? Quelle marge est faite avec tel ou tel client, avec tel ou tel sous-traitant? Et pour cela, il faut supprimer le secret des affaires et permettre aux travailleurs de dire tout ce qu'ils savent de ce qui se passe dans l'entreprise. Les groupes capitalistes, les banquiers sont trop irresponsables à l'égard de la société. Ils se préoccupent exclusivement de leurs profits privés et ils l'ont montré tout au long de la crise. Pour pouvoir les empêcher de faire leur sale coup en cachette, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire. Bien sûr, supprimer cette loi qui punit aujourd'hui tous ceux qui rendent publics les mauvais coups qui se préparent derrière le secret des affaires ne fera pas tout. Elle ne fera que créer les conditions légales d'un contrôle de la population. Mais pour que ce contrôle soit effectif, il faudra encore la volonté de la population de prendre en main ce contrôle, de s'organiser, de se mobiliser pour cela. Mais la suppression du secret des affaires sera un premier pas qui, nous l'espérons, sera suivi de bien d'autres pour contester la dictature du capital. Voilà quels sont les objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Nous ne le répéterons jamais assez, mais nous savons que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives, mobilisant la majorité du monde du travail. Mais c'est la seule issue. Et je me présente dans cette élection pour défendre cette politique, ce programme qui est un programme de lutte pour les travailleurs. Je serai la seule à le défendre. Tous les autres, y compris ceux qui se tardent d'être plus radicaux, sont trop respectueux du marché, de la concurrence et de la propriété capitaliste pour le faire. Ils s'accommodent de cette société capitaliste, mais c'est un ordre social injuste et une organisation économique complètement stupide. Non, l'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, des inégalités et des injustices. La société est une maison de fous, où les crises sont déclenchées parce qu'il y a trop d'argent, un pôle de la société, parce qu'il y a trop de production par rapport à ce que la population peut acheter. Et ce trop-plein de richesses, eh bien, il va dans la finance, il termine dans la spéculation, et cela finit par étouffer toute l'économie. Le capitalisme est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. Nous n'avons jamais eu autant de moyens pour construire vite et bien, mais il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Plus on peut faire circuler les connaissances et le savoir, moins il y a d'éducation. Plus on a les moyens de soigner des maladies graves et même de réussir des prouesses médicales, et moins les gens se soignent. On est capable aujourd'hui de produire de la nourriture pour deux fois la population de la planète, mais des millions de femmes et d'hommes sont affamés aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique. Alors pour changer cela, eh bien il faut une transformation profonde de la société, qui ne peut se faire qu'en expropriant la bourgeoisie, qu'en réorganisant la production sur de toute autre base. Alors, à tous ceux révoltés par le gâchis de cette société capitaliste, nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte et au communisme. Chacun a le choix de lutter pour un monde meilleur, qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous, et pas seulement ceux d'une minorité rapace. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Au repli nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles que l'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. Transformation de la société n'est pas l'enjeu de cette élection présidentielle, et elle ne peut pas l'être. Elle ne peut pas surgir des urnes, pas plus de celle de la présidentielle que d'aucune autre. La transformation révolutionnaire de la société ne pourra résulter que de l'activité consciente des masses exploitées, révoltées par leurs conditions d'existence et décidées de prendre le mal à la racine. À une toute autre échelle, il en va de même du programme de lutte que j'ai exposé ce soir. Aucun vote ne pourrait l'imposer. Mais cette campagne électorale, elle nous donne la possibilité de le défendre et de préparer politiquement les travailleurs pour les luttes qu'ils vont avoir à mener. Vous pouvez nous aider à faire entendre ces idées dans cette campagne électorale. Si vous le voulez, vous pouvez nous aider à faire entendre une voix communiste qui n'en reste pas à la dénonciation des excès du capitalisme, mais qui remet en cause ses fondements même. Vous pouvez contribuer par la parole auprès de vos voisins, dans votre atelier, votre bureau, dans votre entourage. Vous pouvez contribuer en participant à nos campagnes d'affiches, à l'organisation de nos réunions et de toutes les façons qui vous sembleront possibles. Alors vous l'aurez compris, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour nous aider dans cette campagne. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître ses idées plus largement et à les populariser, eh bien ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les entreprises, dans la rue, en tout cas dans les luttes.
Nathalie l'a expliqué, l'avenir pour les travailleurs ne réside pas dans le nationalisme, dans le protectionnisme, comme voudraient nous faire croire non seulement les politiciens à droite, mais aussi à gauche. L'avenir n'est pas dans la division, mais au contraire, dans l'union, dans la lutte commune des travailleurs, de toute nationalité, de toute origine et de tous les pays. Aussi, nous allons reprendre le champ des travailleurs, l'international, un champ qui, nous en sommes sûrs, va redevenir d'actualité en France comme ailleurs.